La lessiveuse. 10 mars 2021. Côte est des USA. Eau internationale. 42 degrés 8 minutes 50 secondes nord. 65 degrés 25 minutes 9 secondes ouest. Tous les vols sereins se ressemblent. Chaque vol turbulent l'est à sa façon. Il est 16h13 quand le vol AF006 Paris-New York au sud de la Nouvelle-Écosse voit se dresser devant lui la barrière ouatée d'un immense cumulonimbus. Le front nuageux se lève, et vraiment vite. Il est encore à un quart d'heure de navigation, mais il s'étend au nord comme au sud sur des centaines de kilomètres en arc de cercle et plafonne déjà à près de 45 000 pieds. Le Boeing 787, qui vole à 39 000 et allait amorcer sa descente vers New York, ne saurait y échapper et le cockpit connaît une brusque agitation. Le copilote compare les cartes et le radar météo. Le large front froid nuageux n'était pas signalé, et Gilles Favreau n'est plus seulement surpris, il est franchement inquiet. Le mur opaque, gris, irisé en son sommet par un soleil éblouissant, pousse vers eux à une vitesse folle, avale avec voracité la couche nuageuse et le nourrit et le soutient. Le commandant Markle affiche la fréquence de Boston, examine les instruments, le radar météo qui se colore de rouge à 120 nautiques. Il hoche la tête, pose son café quand Boston émet sur sa fréquence. À tous les avions sur Boston Control. En raison des conditions exceptionnelles sur la côte Est, tous les terrains sont fermés à l'exception de KGFK. Plus aucun décollage de la côte Est depuis une demi-heure. La situation se développe trop vite pour que nous ayons pu avertir aucun avion plus tôt. KGFK Carnassy reste ouvert pour atterrissage. Boston Control, bonjour, Air France 006, niveau 390, en route vers Kennebunk. Nous avons un monstre devant nous. Demandons cap 350 sur les prochains 80 nautiques. Air France 006, ici Boston Control, liberté de manœuvre. Contactez maintenant Kennedy sur 125.7. Bye bye. Markle grimace. Regarde l'horizon se boucher du nord au sud inexorablement. Pour son avant-dernier vol sur l'Atlantique, le ciel lui offre un souvenir mémorable. Il se connecte à l'aéroport. Kennedy Approach de Air France 006. Nous avons assez de kérosène pour longer le front nuageux en déviant au cap sud jusqu'à Washington. Un clic. Une autre voix de femme, plus grave. Désolé 006, négatif. Ce sont les mêmes conditions jusque bien au-delà de Norfolk. C'est peut-être même pire vers le sud maintenant. Descendez quand vous le pouvez à unité 8-0 et reprenez la route vers Kennebunk. Conservez les paramètres. Markle secoue la tête, coupe la communication, saisit le micro-cabine et annonce aux passagers d'une voix rassurante, en anglais d'abord, puis dans un français pas trop approximatif. Ici votre commandant de bord. Veuillez immédiatement regagner votre siège et attacher votre ceinture, ainsi qu'éteindre tout appareil électronique. Nous allons traverser une zone de très grande turbulence. Je répète, de très grande turbulence. Veuillez ranger vos sacs et vos ordinateurs sous le siège, devant vous ou dans les rangements prévus à cet effet. Ne gardez aucun liquide et fermez votre tablette devant vous. Personnel de bord, veuillez veiller à la sécurité des passagers et de la cabine et aussitôt regagner votre siège. Je répète, après vérification de la sécurité des passagers, veuillez immédiatement regagner votre siège. Le cumulonimbus se rapproche. C'est un supercellulaire, mais il est loin d'être classique. Ce n'est pas une enclume solitaire qui monte jusqu'à la haute atmosphère. Ce sont des dizaines d'entre elles, comme soulevées par une main invisible qui fusionne dans la tropopause. Sur l'océan, les navires doivent être pris dans une dépression apocalyptique. En 20 ans de long courrier, Markle n'a jamais vu ça. L'orage de l'année, au moins. Les dômes stratosphériques plafonnent à 16 kilomètres de hauteur. Il pourrait tenter de se glisser entre deux colonnes, mais ce serait pour se précipiter dans celle qui suit. Le radar météo affiche désormais une longue barre rouge oblique, une muraille d'eau et de glace. Tu as vu à quelle vitesse ça grossit, s'inquiète Jid. On va se payer un courant descendant de dingue dès qu'on va parvenir au flanc. On va jamais réussir à traverser. Gide a raison de s'inquiéter, se dit Markle, même s'il n'a qu'une année de transatlantique et 3 sur les longs courriers. Il rallume le micro et reprend pour la cabine sur un ton joueur dédramatisant. « Hello, folks. De nouveau le commandant Marco. Je vous demande à nouveau de rester assis, de boucler votre ceinture, de vérifier celle des enfants assis à côté de vous. Éteignez tout appareil électronique, je le répète. Il est très possible que nous rencontrions un trou d'air dans la minute qui vient. À tout personnel de bord, si la sécurité est assurée, regagnez votre siège dès maintenant, s'il vous plaît. J'attends confirmation de votre part. » « Tous en position de sécurité, confirmation, » fait la voix de la chef de cabine. « Ok, ça risque d'être impressionnant et je garantis que vous vous en souviendrez, mais je vous promets que c'est dangereux pour personne si vous êtes bien attaché. Des montagnes russes pour ceux qui aiment les fêtes fortes. » Soudain, avant même d'atteindre l'extrémité du front chaud, le Boeing manque d'air pour le soutenir et plonge. Malgré l'isolation de la porte de la cabine, Markel et Favreau croient bien entendre les passagers hurler. L'avion connaît 10 interminables secondes de chute libre, avant de pénétrer dans le cumulonimbus au pire endroit, au sud-ouest de la colonne, avec une inclinaison effarante, un angle de 30 degrés que lui impose l'assistance au pilotage qui a pris le relais des commandes manuelles. Tout de suite, le Boeing est roulé dans les courants tourbillonnants du nuage, et tout de suite aussi, le cockpit s'allume, car c'est la nuit. Un noir de suie et un fracas épouvantable. Des centaines d'énormes grêlons mitraillent les vitres, en laissant ici et là un impact dans le verre blindé. Quelques instants qui paraissent sans fin, et malgré les rafales de la tornade, le Boeing retrouve le courant ascendant chaud et un peu de portance. Cette fois-ci, c'est une intense sensation d'écrasement de bas de grand 8. Markel, sanglé dans son fauteuil, pousse au maximum les deux General Electric. Parce que, oui, qu'est-ce que c'est que cette espèce de saleté? Un poteau noir pareil, c'est bon pour un Rio Madrid vers l'équateur. Qu'est-ce que ça vient fiche en plein Atlantique Nord? Putain, c'est trop bête! On a les plus puissantes des chaudières, des ailes d'une souplesse épatante. On va tout de même pas se laisser casser en deux, comme un modèle réduit, c'est pas possible. Sur le Simu, on s'en est sorti des dizaines de fois avec des moteurs qui avaient lâché, avec des dépressurisations, des ordinateurs de bord en rade. Merde, on va pas se planter en vrai! Markel ne songe pas à ses gosses, pas à sa femme, pas encore. Peut-être même que les pilotes meurent toujours sans avoir eu le temps de faire défiler leur vie. Et Markel ne pense pas du tout aux passagers. Là, il essaie juste de sauver ce gros Boeing bien lourd et bien pâteau. Alors il répète les gestes appris par cœur, répétés encore et encore. Il se fie à des réflexes et à ses 20 années d'expérience. Mais c'est tout de même un sacré truc. Markel et Favreau, secoués, chahutés, livides, se concentrent sur les instruments. Ils se battent avec la tempête. Plus tard, on apprendra que c'était la plus violente et la plus subite des 10 dernières années. Le voyant de la turbine gauche indique une perte de puissance de 15%, mais le champ électrique intense perturbe l'électronique de bord. Et au bout du compte, dans cette tornade, l'avion résiste, se maintient à peu près à l'horizontale, finit par se stabiliser, et même si la grêle ne faiblit pas, si le pare-brise est constellé en surface, la seconde épaisseur ne présente aucune micro-fissure inquiétante. Markel, dès que les secousses s'atténuent un tant soit peu, s'adresse à la cabine. Malgré le bruit assourdissant qui règne dans l'habitacle, il essaie de ne pas crier. « Sorry, folks, pour ces turbulences. Nous allons devoir continuer notre route vers New York à travers le cumulonimbus et rester dans cette lessiveuse pendant au moins... » Soudain, un soleil éblouissant revient dans le cockpit. Le Boeing accélère brutalement. Le silence se fait de nouveau. Les perturbations sont aussitôt derrière eux. Markel vérifie les contrôles, stupéfait. L'avion vole parfaitement bien, dans un grondement régulier, mais tous les instruments sont déréglés. Malgré la chute vertigineuse durant 5 bonnes minutes, l'altitude s'affiche de nouveau, calée à 39 000 pieds. Le radar météo refuse de signaler la moindre perturbation, et le cap apparent est de 260. Il reprend le micro de l'interphone cabine. « Eh bien, comme vous l'avez constaté avec moi, nous sommes sortis à l'instant du nuage sans trop de dégâts. Nous vous prions de rester assis jusqu'à future instruction et de maintenir éteint tout appareil électronique. Personnel de bord, vous pouvez vous détacher, merci. Rapport cabine, s'il vous plaît. » Markel coupe le micro et affiche le code d'urgence 7700 sur le transpondeur. Il remet son casque, appelle Kennedy Approach. Mayday, 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 Kennedy Approach, ici Air France 006. Suite à des turbulences en traversant la couche et au givrage important, pas de blessés, mais nous n'avons plus d'instruments, ni altitude, ni vitesse. Le radar est HS. Le pare-brise est très endommagé. Au contrôle de Kennedy, la voix est désormais masculine et étonnée. Mayday reçu, Air France 006. Pouvez-vous confirmer le code transpondeur 7700? New York, Air France 006, je confirme, transpondeur 7700. La voix, où l'on décèle une profonde incompréhension, répète. Air France de Kennedy Approach, confirmez le transpondeur 7700. Vous dites bien Air France 006? Affirmatif, Air France 006, Mayday. Je confirme transpondeur sur 7700. Nous avons traversé un gros nuage de grêle, le pare-brise est fissuré, le radeau est sûrement défoncé. La communication est coupée quelques longs instants. Markle se tourne vers Favreau, interdit. Trois fois, il a rentré le code transpondeur et Kennedy ne parvient toujours pas à les identifier. Soudain, la connexion se rétablit. Une voix de femme cette fois, mais moins chantante que la première, moins aimable aussi. Air France 006 Mayday de Kennedy Approach. Ici Air Traffic Control. Quel est le nom du commandant de bord, s'il vous plaît? Markle reste bouche bée. Jamais de toute sa carrière, aucun contrôleur ne lui a demandé le nom d'un pilote. Air France 006 Mayday de Kennedy Approach. Je répète, qui est l'officier aux commandes, s'il vous plaît?